VOA Afrique,
le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du Monde aujourd'hui. Abdourahmane Dia à la présentation, les titres. Attaque meurtrière contre deux villages de la République démocratique du Congo proche de la frontière zambienne. L'opposant kényan Raila Odinga pose des conditions pour sa participation à l'élection présidentielle du 17 octobre après l'annulation du scrutin du mois dernier. Ici aux États-Unis, des milliers de jeunes immigrants pourraient perdre leur protection temporaire après la suppression d'une loi signée par l'ex-président Barack Obama. La Russie met en garde contre une hystérie militaire suite aux essais nucléaires nord-coréens. Dans la partie magazine, nous ferons le point sur le renforcement de la sécurité à Ouagadougou.
C'est vrai, nous avons déploré des morts, mais comme partout ailleurs, nous n'allons pas nous laisser abattre par cela.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique également, mais tout d'abord, le journal. Une fois n'est pas coutume, on démarre par la page des sports. Nicolas Pinault, bonsoir.
Bonsoir, Abdourahmane, bonsoir à tous.
On démarre par les matchs décisifs sur le continent dans la course mondiale 2018 en Russie.
Et oui, le Congo définitivement éliminé. Les Diables Rouges ont pris 5 buts à domicile ce soir au stade municipal de Kintele. Le bourreau s'appelle le Ghana et surtout Thomas Partey, auteur d'un triplé pour le joueur de l'Atlético Madrid. Les deux premiers du groupe E, l'Égypte et l'Ouganda s'affrontent à Alexandrie. Ce sont les Égyptiens qui mènent 1-0. Dans le groupe A, après sa victoire 2-1 à l'aller, la Tunisie en déplacement à Kinshasa pour affronter les Léopards qui n'ont pas le droit à un faux pas. Eh bien, les Congolais mènent 1-0 après l'ouverture du score de Chancel Bemba, le joueur de Newcastle en première mi-temps. Dans le groupe D, la manche retour à Ouagadougou entre le Burkina Faso et le Sénégal. Et c'est Bertrand Traoré qui permet aux étalons de prendre la tête du groupe avec un but inscrit dès la 9e minute au stade du 4 août. L'Afrique du Sud, dont le sursaut est attendu, joue contre le Cap-Vert. Pour le moment, 1-0 en Afrique du Sud, but des Requins Bleus qui mènent 1-0 en deuxième mi-temps. Et dans le groupe C, c'est une surprise, la Côte d'Ivoire qui cale contre le Gabon. Défaite 2-0 après 45 minutes de jeu. Début gabonais signé Meye Ndong et Lemina. Tandis que le Mali tentera de laver l'affront après le 6-0 infligé par le Maroc à l'aller. Dans le groupe B, l'Algérie pour l'honneur à Constantine face à la Zambie.
On joue également en Europe ce soir.
Et après la démonstration espagnole contre l'Italie ce week-end, la Roja se déplace au Liechtenstein. L'Italie accueille Israël, Turquie, Croatie, Irlande, Serbie. Le choc des deux premiers du groupe D. Et puis en Asie, Abdourahmane, la Corée du Sud s'est qualifiée pour cette Coupe du Monde. Après son match nul 0-0 en Ouzbékistan, elle rejoint l'Iran et le Japon. Et du nouveau dans le match Afrique du Sud-Cap-Vert, puisque les Requins Bleus viennent de doubler la mise 2-0 donc pour les Requins Bleus du Cap-Vert.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain. Les Rockets de Houston changent de propriétaire.
Eh oui, ils ont été rachetés par le milliardaire américain Tillman Fertitta pour 2,2 milliards de dollars, un montant record pour une franchise NBA. Son actuel propriétaire, Leslie Alexander, tenez-vous bien, n'avait déboursé que 85 millions de dollars. C'était en 1993. Houston a remporté deux titres NBA, 94 et 95, et surtout une saison incroyable à venir avec James Harden qui va toucher 228 millions de dollars au cours des 6 prochaines saisons. Et puis le transfert qui a agité la NBA cet été, Chris Paul, qui a été recruté en provenance des Los Angeles Clippers.
Merci beaucoup, Nicolas. On poursuit ce journal avec le Conseil de sécurité de l'ONU qui a adopté ce mardi à l'unanimité une résolution créant un régime général de sanctions pour le Mali. Au moment où les entraves au processus de paix se multiplient, le texte prévoit la possibilité d'interdiction de voyage et de gel d'avoir de ceux qui violeraient l'accord d'Alger de 2015 ou s'attaqueraient au casque bleu. D'ailleurs, deux casques bleus ont été tués, deux autres grièvement blessés aujourd'hui lorsque leur véhicule a heurté une mine ou un engin explosif dans le nord-est du Mali. C'est ce qu'a annoncé la mission de l'ONU dans le pays. La recrudescence des attaques du groupe djihadiste nigérian Boko Haram a fait près de 400 morts civiles depuis le mois d'avril. Le nombre de victimes civiles a donc doublé durant les cinq précédents mois, selon Amnesty International dans un rapport publié aujourd'hui. Le premier ministre sénégalais Mohamed Boun Abdellah Diagne a démissionné ce matin après avoir conduit avec succès la liste de la coalition gouvernementale lors des élections législatives de juillet dernier. Un nouveau gouvernement est attendu dans les prochains jours. L'élection présidentielle est prévue en 2019. En République démocratique du Congo, 3 morts. C'est le bilan d'une attaque menée la nuit dernière contre 2 attaques près de la frontière avec la Zambie. Cette attaque, dont les auteurs ne sont pas encore identifiés, a occasionné la fuite des populations vers la Zambie. Le point avec Nerval Mabila.
C'est depuis 4 heures du matin de ce mardi 5 septembre que le village Kibango, situé à 15 km d'Mpweto et 12 km du village Lukinda, qui est la frontière entre la Zambie et la RDC, a été attaqué par des hommes armés non autrement identifiés. Et les armes y ont retenti pendant plusieurs heures. Nous sommes à Mpweto où un habitant nous donne son témoignage sous anonymat.
À 4 heures du matin à la frontière, il y avait quelques mecs qui sont venus là-bas commencer à tirer des balles. Ils ont tué un policier, un air. Après tout, ils ont cassé des chaises. Après tout, ils ont parti à Borio, direction connue. Les soldats aussi sont venus commencer à tirer des balles. Jusqu'à présent, maintenant, pour ce moment, c'est calme. Mais beaucoup de gens sont partis à Zambie.
Le gouverneur Pandeka Popo est injoignable. Des sources sécuritaires nous renseignent que l'armée a repris les contrôles dans la journée. Un calme précaire est observé et on annonce l'arrivée du ministre de la Défense à Lubumbashi, Nerval Mabila, VO Afrique.
Au Kenya, le leader de l'opposition Raila Odinga pose des conditions pour sa participation à la présidentielle du 17 octobre, date choisie par la commission électorale après l'invalidation du scrutin du mois d'août. Les détails avec Blanche Sanou.
Raila Odinga a engagé mardi les hostilités autour de la date de la nouvelle élection présidentielle. Depuis l'invalidation par la Cour suprême pour irrégularité de l'élection du 8 août, le vétéran de l'opposition, âgé de 72 ans, ne cesse de s'en prendre à la commission électorale. Il n'y aura pas d'élection le 17 octobre, sauf à ce que les termes et conditions que nous avons énumérés dans ce communiqué soient remplis par l'UEBC, a-t-il prévenu. Monsieur Odinga reproche à la commission d'avoir choisi la nouvelle date unilatéralement. Il a ensuite listé ses desiderata, parmi lesquels un audit du système électronique de l'IEBC, la démission de plusieurs de ses membres et la possibilité pour toute personne éligible de se présenter à la nouvelle élection. Le président Kenyatta a exclu que l'IEBC soit remanié à profondeur. La Cour suprême doit publier d'ici au 22 septembre les motivations de son jugement. L'IEBC a soumis ses attentes quant à cette date pour savoir ce qui lui est exactement reproché et quelle amélioration elle doit apporter pour la prochaine élection. La proclamation de la victoire de M. Kenyatta le 11 août avait été suivie de violences qui avaient fait au moins 21 victimes, pour la plupart tuées par la police dans des bastions de l'opposition dans l'ouest du pays et à Nairobi.
Plusieurs partis d'opposition sud-africains ont demandé à la Cour constitutionnelle de contraindre le Parlement à engager une procédure de destitution contre le président Jacob Zuma. L'opposition tente cette nouvelle procédure après avoir échoué à plusieurs reprises à le destituer au Parlement. Le président Zuma, dont le second et dernier mandat expire en 2019, est cité dans plusieurs scandales de corruption. Le chef d'état-major de l'armée du Lesotho a été abattu ce matin lors d'une fusillade survenue dans une caserne du pays. 2 officiers supérieurs avaient également été tués lors de la fusillade qui a coûté la vie au général Kwatlen Mansouremoto. Cet incident intervient 3 mois après les élections qui ont porté au pouvoir le premier ministre Thomas Thabane. Le Lesotho a une longue histoire d'instabilité illustrée par des coups d'état militaires en 86 et 91. Et des tentatives de coup comme en 2014.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Quelques jours après le nouvel essai nucléaire exécuté par la Corée du Nord, les réactions continuent à se faire entendre. Aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine qui, après avoir condamné l'essai, a fermement mis en garde contre toute hystérie militaire pour contrer le régime de Kim Jong-un. Les explications d'Arzuma Compaoré.
Suite à ce 6e essai nucléaire de Pyongyang, le plus puissant à ce jour, les États-Unis et leurs alliés européens et japonais ont annoncé lundi négocier de nouvelles sanctions sévères à l'ONU contre la Corée du Nord, mais la position de Pékin et Moscou, dotée de droit de veto, restait incertaine. Depuis la Chine, où il a assisté au sommet des puissances émergentes des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, le président russe Vladimir Poutine a condamné ces exercices de la Corée du Nord, qu'il a qualifiés de provocation. Il a estimé en revanche qu'une réponse militaire pourrait aboutir à une catastrophe planétaire. Une position qui semble rejoindre celle défendue par Pékin, qui préconise une résolution pacifique. Donald Trump a jugé que désormais, tout discours d'apaisement ne fonctionnera pas et menacé le pays reclus d'une réponse militaire massive au cas où il menacerait leur territoire ou celui de leurs alliés. De son côté, la Corée du Sud a, dès lundi, lancé des manœuvres terrestres et maritimes à tir réel dans l'espoir de dissuader Pyongyang de toute provocation.
Le président américain Donald Trump a décidé de supprimer le programme mis en place par son prédécesseur Barack Obama en vue de protéger des centaines de milliers de jeunes sans-papiers d'une expulsion et de leur permettre d'étudier et de travailler aux États-Unis. Bagasikura.
Trump ne s'est pas personnellement exprimé sur cette décision, mais a laissé son ministre de la Justice, Jeff Sessions, monter en première ligne. À compter de ce jour, aucune nouvelle demande ne sera examinée. Le sort des quelque 800 000 personnes connues sous le nom de Dreamers, qui bénéficient déjà de ce statut, ne sera pas affecté, du moins jusqu'au 5 mars 2018, de l'aide de 6 mois accordée par l'administration pour que le Congrès légifère sur cette question. Un compromis au Congrès sur un sujet qui divise Washington depuis des années apparaît cependant loin d'être acquis. En 2012, Obama avait mis en place par décret le programme DACA, en anglais « Deferred Action for Childhood Arrivals » afin de faire sortir de l'ombre les enfants arrivés illégalement aux États-Unis avec leurs parents, pour la plupart en provenance d'Amérique latine.
L'ouragan Irma est passé au niveau maximum menaçant les Antilles françaises, Haïti et la Floride, ici aux États-Unis. Le Centre américain des ouragans a affirmé ce mardi qu'Irma est devenu un ouragan extrêmement dangereux de catégorie 5, la plus élevée dans la classification de ces phénomènes. L'ouragan Harvey, qui a frappé le Texas il y a plus d'une semaine, a fait au moins 42 morts et d'énormes dégâts matériels qui pourraient franchir la barre des 100 milliards de dollars. Le président français Emmanuel Macron veut une refondation complète de la politique d'asile et d'immigration de la France. Une loi dans ce sens devrait être adoptée au premier semestre de l'année 2018. Le projet de loi comportera plusieurs dispositions pour permettre d'améliorer les retours vers les pays d'origine, a indiqué le président Macron. On va vers la tenue de procès pour les crimes commis en Syrie, selon la juge française qui vient d'être nommée à la tête d'une commission d'enquête internationale. Selon Catherine Marchiouel, la création de ce mécanisme chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves en Syrie a été décidée pour éviter l'impunité de leurs auteurs. Et sur le terrain, la Russie a salué la victoire remportée par l'armée syrienne qui a brisé le siège de plus de 2 ans imposé par les djihadistes du groupe État islamique à la zone gouvernementale de Deir ez-Zor, c'est dans l'est du pays. Il s'agit d'une étape importante vers la libération du territoire syrien du terrorisme, a estimé le président russe Vladimir Poutine. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est tout de suite dans la Minute Éco, présentée ce soir par Jacques Aristide.
Panne d'essence dans les stations-service en RD Congo. À Kinshasa, la plupart des stations étaient fermées hier, d'après l'AFP. Les compagnies pétrolières et le gouvernement négocient pour désamorcer cette crise d'approvisionnement en carburant, conséquence de la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar. Le ministre de l'économie, Joseph Kapika, annonce qu'une commission d'experts proposera des solutions sans évoquer une possible hausse du carburant à la pompe. Le Nigeria renoue avec la croissance, une première depuis plus d'un an. Son économie, entrée en récession en août 2016, a progressé au deuxième trimestre cette année de 0,55%. La production pétrolière, qui avait chuté en raison d'attaques rebelles sur les infrastructures d'hydrocarbures dans le delta du Niger, est remontée grâce à des accords d'amnistie avec les groupes armés. Les autres facteurs de croissance incluent l'agriculture, le commerce et l'industrie énergétique. L'Afrique du Sud connaît également la croissance à nouveau. Son économie a enregistré au deuxième trimestre une hausse du produit intérieur brut de 2,5% par rapport au premier trimestre de l'année. Le pays le plus industrialisé du continent africain était entré en récession plus tôt cette année. Les principaux contributeurs à ce rebond sont l'agriculture et la pêche, les secteurs financiers, de l'immobilier et des mines.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Abdelrahman Dia, toujours en votre compagnie sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. La Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme au Burundi affirme que des crimes contre l'humanité ont été commis depuis mai 2015. Les trois membres demandent qu'une enquête soit menée par la Cour pénale internationale pour connaître les commanditaires de ces crimes. Mais le pouvoir en place à Bujumbura nie toutes les allégations. Notre correspondant au Burundi, Christophe Kourounziza, a tendu son micro à des habitants de la capitale pour leur point de vue.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les autorités burkinabées mettent les bouchées doubles pour renforcer la sécurité à Ouagadougou, notamment sur l'avenue Kwame Nkrumah. Le ministre en charge de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, a rencontré les principaux responsables d'affaires et de commerce de l'avenue pour en discuter. Des détails à Ouagadougou avec notre correspondant Issa Napon.
Le maître d'État Simon Compaoré a échangé avec les responsables des commerces situés le long de l'avenue Kwame Nkrumah autour d'un projet de renforcement sécuritaire. Après deux attaques en 19 mois en plein centre de la capitale, il fallait un ministre combatif pour dérouler une nouvelle stratégie dont le but ultime, rappelle-t-il, est de protéger efficacement les usagers de cette célèbre avenue.
Pour rien au monde, nous n'allons nous laisser faire avec l'action des terroristes. Alors nous avons pris des dispositions. Quand vous irez sur Kwame Nkrumah, vous verrez. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. C'est des mesures pérennes et vous pouvez le constater de nuit comme de jour. Beaucoup d'améliorations vont être faites sur cette voie. Et toutes ces améliorations qui vont faire que, au lieu de fuir Kwame Nkrumah, on va accourir vers Kwame Nkrumah. C'est vrai, nous avons déploré des morts. Mais comme partout ailleurs, nous n'allons pas nous laisser abattre par cela. Et on est satisfait parce qu'on a bien échangé. Nous comptons sur leur implication. La qualité de la sécurité va beaucoup s'améliorer sur cette voie.
Quel nombre d'hommes, quel dispositif exact, des questions éludées par le ministre en charge de la sécurité qui est resté très discret sur les détails d'une stratégie dans laquelle l'on sait que nombreux d'entre les hommes envoyés sur le terrain seront fondus dans la masse des civils qui fréquentent l'avenue et cela pour le long terme. Sur la situation du départ des Peace Corps américains du Burkina pour questions sécuritaires, la réaction vive du ministre Simon Compaoré résume à elle seule sa pensée.
Non, c'est une décision souveraine. Nous n'allons pas faire de commentaires. Nous disons seulement, nous remercions tous ceux qui sont là, étrangers qui sont là. Et j'envoyais encore ce matin, très tôt, sur Kwame Nkrumah, en train de prendre leur petit déjeuner. Eh bien, la vie va continuer. Et de plus belle, il n'y a pas de quoi fouetter un chat.
Les participants à la rencontre ont partagé cette discrétion du ministre à l'image de Aboukini Pascal. Il affirme que le projet présenté par le patron de la sécurité intérieure devrait tenir la route.
Tout dépend de tout un chacun de nous, parce que nous devons quand même contribuer à la sécurité et nous devons contribuer également au développement. Donc ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais c'est l'affaire de toute la population. Ça va de votre intérêt, ça va également de mon intérêt. Sincèrement, c'est tout ce que nous voulons, c'est la sécurité, parce que la sécurité est la mère de la paix. Et c'est ce que nous souhaitons et je crois qu'on a été satisfaits. Nous voulons quand même dire merci aux autorités.
Le ministre de la Sécurité essaie d'apporter un début de réponse aux récriminations des riverains de l'avenue Kwame Nkrumah et du reste des citoyens sur l'absence de sécurité dissuasive dans les lieux de grosse fréquentation de la capitale, tels que l'avenue Kwame Nkrumah. Une avenue qui regagne peu à peu son animation quotidienne, 3 semaines après un attentat qui jusque-là n'a toujours pas été revendiqué. Issa Napo Ouagadougou, VOA Afrique.
L'autorité du bassin du fleuve Niger a lancé aujourd'hui une alerte sur des risques d'inondation dans la capitale du Niger, Niamey, où des pluies torrentielles ont déjà fait 17 morts depuis juin. Des inondations qui touchent plusieurs régions du pays, comme en témoigne l'assistante au programme environnement du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, Salamatou Imer Mounkaïla.
Il y a beaucoup de pluies présentement. Actuellement, il pleut beaucoup à Niamey. Comme c'est la saison pluvieuse, plus précisément en août, vous savez, il pleut beaucoup ici. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'inondations.
Parlez-moi un petit peu de la situation à Takoro. Est-ce qu'il pleut également là où vous êtes?
Bien sûr, il pleut beaucoup là-bas. Parfois, il pleut beaucoup tellement que les maisons tombent et c'est difficile de sortir sous la pluie. Bon, au Niger, comme nous, naturellement, on n'est pas habitué à beaucoup de pluie. Donc, quand il pleut, les gens ne sortent pas ici. Parce que nous, on n'a que 3 mois de saison pluvieuse en tout dans l'année.
Alors, vous êtes spécialiste du changement climatique. Est-ce que pour vous, il s'agit juste d'une saison complètement normale ou est-ce que le réchauffement climatique entraîne plus de pluies torrentielles et plus d'inondations?
Voilà. C'est clair que c'est dû au changement climatique parce que ça fait quand même quelques années que ce n'est pas la même situation qui s'est passée ici. Au Niger et partout d'ailleurs à l'intérieur du pays.
Qu'est-ce qui a changé?
Et ça a changé parce que là, durant la saison pluvieuse, les 3 mois où il pleut ici abondamment, il pleut beaucoup, il y a des inondations, il y a des torrents, il y a plusieurs catastrophes, quoi. Il y a même des noyades, tout ça dans l'eau. Et le fait que les maisons sont détruites aussi. En plus, quand il fait chaud aussi, il y a un changement, il fait très chaud ici. Au Niger. Là, il fait plus chaud, et les pluies sont rares et quand les pluies viennent, c'est des pluies diluviennes.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour essayer de contrer ces inondations, à votre avis?
Moi, je pense que pour contrecarrer ces genres de fléaux, il faut essayer de juste sensibiliser la population par rapport à ces genres de pluies-là. Déjà, nous, notre projet là-bas à Dakar, on a mis en place des pluviomètres où on apprend aux villageois à bien, c'est-à-dire à lire les millimètres de pluie qu'ils ont reçus et tout ça. Si quand il y a beaucoup de pluie, au moins ils savent, ils peuvent nous communiquer. Il faut évacuer, il faut sensibiliser parce que on a toujours dit qu'on ne peut pas lutter contre les changements climatiques, mais on peut mettre en place des options d'adaptation en fait. C'est-à-dire on peut aider la population à s'adapter. Mais on ne peut pas carrément empêcher ce changement-là.
C'était Salamatou Imer Mounkaïla du programme des Nations Unies pour le développement au Niger.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Aux États-Unis, l'avenir de quelques 800 000 immigrants est incertain. Le président Donald Trump a mis fin au programme de Barack Obama qui permet à des centaines de milliers de jeunes sans-papiers d'étudier et de travailler sur le sol américain. Le Congrès doit trouver un compromis avant le 5 mars de l'année prochaine pour légiférer et préserver leur statut. Dans le cas contraire, ils risquent l'expulsion du pays. Eric Manirakiza a joint à New York l'activiste pour la défense des droits des immigrants, Bakary Tandja.
C'est l'incertitude totale. Après tant d'hésitations, finalement, Trump a, par la voix de son ministre de la Justice, fait connaître sa position sur DACA, qui est le décret qui a été signé par président Obama en 2012. Pour permettre à peu près 800 000 jeunes qu'on appelle « dreamers » à pouvoir bénéficier d'un statut légal leur permettant de travailler, se prendre en charge et faire leur contribution au développement économique de l'Amérique.
Trump laisse quand même une marge de manœuvre pour que le Congrès puisse agir.
Non, ça c'est fuir ses responsabilités, prendre le taureau par les cornes, ça ce n'est pas du tout une solution, c'est créer davantage de confusion au sein de la communauté. Bon, on sait que la procédure par laquelle on peut arriver à une réforme au niveau du Congrès est extrêmement complexe et le Congrès a énormément de choses sur son agenda. Et en plus, nous savons que au niveau de la Chambre des représentants, les républicains ont une majorité écrasante et c'est là-bas justement où des obstacles insurmontables vont être présentés. La meilleure solution, c'est de passer une loi pour régler définitivement la question, tout en sachant que cette décision n'aura jamais lieu.
Et si le Congrès ne protège pas leur statut, existe-t-il une autre issue?
Je sais que le gouverneur de New York a promis d'engager une plainte au niveau de la justice. Bon, et en plus, au niveau des républicains, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent contre l'élimination de DACA. Donc, il n'est pas du tout justifié, parce que réalistiquement parlant, ces jeunes ne sont responsables d'aucune faute. Ils sont venus ici, ils ont été amenés ici aux États-Unis par leurs parents, dans leur majorité écrasante. Bon, ils ne connaissent rien de leur pays d'origine, certains ne parlent même pas les langues de leur pays. Ils ont grandi ici, ils sont de facto des Américains. La seule différence est qu'ils n'ont pas ce papier légal disant qu'ils sont des citoyens. Même hier, au niveau de CNN et beaucoup de chaînes de télévision, ils ont interviewé des jeunes qui ont fini leurs études soit à Columbia ou à Harvard. Bon, il y a même un qui est actuellement en première année de droit après sa formation à Harvard University. Bon, donc, ce ne sont pas des personnes qui vont être à la charge publique et le pays a besoin de leurs compétences. Donc, c'est totalement un non-sens de le faire. Le principe de base de la justice, on ne peut pas punir quelqu'un pour des fautes commises par une autre personne, même si ces personnes-là sont leurs parents.
C'était Bakary Tandja, activiste pour la défense des droits des migrants, joint à New York.
Salut les amis, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi à la mise en onde de Joselle Morissin, à la console Bill Barbe, présentation Abdourmandia. Ainsi va le monde aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.